Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'Arabie Saoudite vote ce samedi des élections municipales dont l'un des enjeux est la place qu'obtiendront les femmes dans les conseils locaux. C'est en effet la première fois qu'elles sont non seulement autorisées à voter, mais aussi à se présenter elles-mêmes. Révolution ou petite évolution contrainte et forcée? La question est posée dans ce pays où les femmes ont peu de droits et par exemple toujours pas celui de conduire une voiture. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël, le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
En Arabie Saoudite, on vote pour les conseils municipaux, un scrutin à la portée limitée, mais qui constitue une nouveauté dans le royaume ultra-conservateur car pour la première fois, les femmes peuvent voter. Mieux, elles sont également éligibles et plusieurs centaines d'entre elles se sont d'ailleurs portées candidates. Amélie Le Renard, bonjour.
Bonjour.
Sociologue, chargée de recherche au CNRS, CNRS dont vous avez reçu la médaille de bronze cette année. Vous avez publié chez Dalloz en 2011 « Femmes et espaces publics en Arabie Saoudite », un livre dans lequel vous analysez les styles de vie mobiles de certaines Saoudiennes dans le contexte de ségrégation qui perdure aujourd'hui dans le royaume. Amélie Le Renard, quelle est aujourd'hui la condition de la femme saoudienne ?
Alors, je parlerai plutôt de la situation des femmes au pluriel. C'est compliqué de synthétiser. En fait, comme dans tous les pays, en Arabie Saoudite, les femmes ont des conditions de vie très différentes selon leur appartenance de classe, par exemple, selon aussi leur nationalité, puisqu'il faut rappeler qu'il y a à peu près un tiers des habitants et habitantes des grandes villes du royaume qui n'ont pas la nationalité saoudienne. Et du coup, entre, par exemple, une employée à domicile philippine et une femme de nationalité saoudienne, il y a déjà certaines limites qui sont très différentes. Puisque, par exemple, l'employé à domicile, son tuteur légal, ça va être son employeur, c'est-à-dire la famille pour laquelle elle travaille. Alors, évidemment, parmi les Saoudiennes elles-mêmes, par exemple, selon la classe, les interdictions n'ont pas les mêmes conséquences. C'est-à-dire qu'une femme qui appartient aux classes aisées peut avoir une voiture avec chauffeur, alors que une femme qui vient de classe plus modeste, on va dire, elle peut rencontrer des vrais obstacles dans sa vie quotidienne. Si elle a un emploi salarié, il y a une bonne partie de son salaire qui va souvent passer dans la rémunération d'un chauffeur, par exemple, avec lequel elle passe un contrat juste pour ses trajets de travail.
Mais car il faut dire que les femmes en Arabie Saoudite sont très encadrées par la législation. Elles ne peuvent pas avoir d'emploi si ce n'est avec l'autorisation du mari ou d'un frère, etc. C'est ça la situation des femmes en Arabie Saoudite.
Alors, il y a beaucoup d'aspects différents, en fait. C'est-à-dire que si on parle de droits politiques, on peut dire que les femmes ont très peu de droits, mais les hommes aussi. On est dans un régime autoritaire et répressif, où il n'y a pas de droits de manifestation, les mobilisations sociales sont très limitées. Après, du point de vue des droits civils, effectivement, les femmes ont un statut subalterne par rapport aux hommes. Et encore une fois, tout dépend des femmes. C'est-à-dire que les femmes saoudiennes ont un tuteur légal dont l'autorisation va être nécessaire pour certaines choses, comme par exemple, alors pour travailler, on ne leur demande pas en fait l'autorisation de leur tuteur légal. En revanche, en pratique, si le tuteur légal vient voir l'employeur et dit non, je ne veux pas qu'une telle travaille, alors elle ne peut pas travailler.
Alors parlons des Saoudiennes, puisque ce sont elles qui finalement ont obtenu le droit de vote en 2011. D'ailleurs, c'était le roi Abdallah qui avait accordé ce droit de vote. L'avait-il fait de son plein gré, si je puis dire ?
Il faut d'abord rappeler que c'est un droit de vote qui est très limité, c'est-à-dire que les institutions ne sont pas représentatives. Alors, pour deux raisons. Premièrement, les instances qui sont en partie élus, puisque c'est la moitié des conseils municipaux, n'ont pas un pouvoir de décision, c'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir de proposition. Donc du coup, c'est une limite essentielle au droit de vote. Et je ne sais même pas s'il faut parler de droit de vote dans ces circonstances, puisque c'est quelque chose de très procédural, mais que finalement, les personnes vont avoir peu de moyens pour faire passer leurs décisions. Alors, du coup, en ce qui concerne cette décision donc autoriser les femmes à voter pour ces élections municipales qui permettent d'élire la moitié des conseils municipaux qui ont des pouvoirs consultatifs, je préfère tout rappeler d'un coup. Alors, depuis les années 2000, et notamment après le 11 septembre 2001, le gouvernement saoudien a fait une série de réformes. Enfin, il a beaucoup utilisé ce terme de réforme, qui touche notamment aux activités et aux droits des femmes. Alors, pour moi, ces réformes sont avant tout une manière d'essayer de redorer l'image de l'Arabie Saoudite à l'étranger. Mais ce sont des réformes qui n'ont pas attaqué ou changé fondamentalement la nature autoritaire du régime. Ça ne veut pas dire que ça n'ouvre pas des brèches dans lesquelles certaines femmes vont pouvoir s'engouffrer, mais ça reste très très limité. Il faut aussi rappeler que les partis politiques sont interdits. Donc imaginez des élections dans lesquelles vous n'avez aucun repère pour savoir pour qui voter. C'est quand même quelque chose qui rend les élections assez illisibles en fait pour les électeurs électrices et qui empêche aussi la politisation des débats.
Comment expliquer cette impunité du royaume saoudien dans sa façon notamment de se comporter vis-à-vis des femmes et aussi, il faut bien le dire, de ses opposants intérieurs et extérieurs ?
Alors, c'est sûr que de longue date, hein, le régime saoudien est un allié de plusieurs pays occidentaux puissants et notamment les États-Unis depuis les années 40. Les États-Unis ont exploité le pétrole saoudien jusqu'aux années 80 à travers une entreprise américaine qui s'appelle l'Aramco, qui a été progressivement nationalisée par l'Arabie saoudite à partir des années 80. Et ça reste une alliance très forte. L'Arabie saoudite est aussi vue comme un régime stable dans la région et sur lequel on peut compter par rapport à d'autres régimes, de la même manière que la Tunisie de Ben Ali ou l'Égypte de Moubarak à l'époque l'ont été. Une région où il y a des ressources sur lesquelles ces pays ont besoin d'avoir un contrôle, en fait. Il y a quand même une certaine critique des médias vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Mais malheureusement, en fait, j'ai l'impression que malgré tout, les gestes du régime saoudien pour améliorer son image rencontrent quand même un certain succès. Par exemple, je pense que sur ce droit de vote des femmes, c'est comme une info qui est bien relayée par les médias. Ce qui est compliqué, en fait, c'est que je pense qu'il y a certaines mobilisations aussi en Arabie Saoudite qui sont très peu médiatisées. Et c'est vrai que dans les médias français, par exemple, on va beaucoup plus voir les mobilisations de certaines femmes qui, en Arabie Saoudite, sont souvent qualifiées de libérales, qui vont en fait, parler des droits des femmes, et c'est un peu ça souvent qu'on attend. Quand les médias rencontrent des femmes saoudiennes, ils ont plus envie de lui parler des droits des femmes par rapport aux stéréotypes qui circulent sur l'Arabie saoudite que de parler de, par exemple, justement, la lutte contre le caractère répressif du régime, la manière dont ce régime a complètement réprimé et tué dans l'œuf les revendications qui pouvaient apparaître au moment des printemps arabes.
Un mot, Amélie Le Renard, sur le rôle que joue ou que l'on fait jouer aux très nombreux Occidentaux qui travaillent en Arabie Saoudite et parfois à des postes assez élevés.
Alors, il y en a assez peu, hein, numériquement, c'est une minorité. Mais en tout cas, étudier les positions de ces Occidentaux permet de remettre en question une opposition qu'on a souvent en tête dès lors qu'on sait qu'il y a des noms nationaux dans les pays du Golfe et où on va penser que les pays du Golfe, en fait, c'est des nationaux très riches et des non-nationaux très pauvres et qui occupent des emplois non qualifiés. Donc on va penser par exemple aux ouvriers du bâtiment indien, aux employés de maison philippines, etc. Et en fait, quand on décrit les choses comme ça, c'est pas complètement faux, mais on rate certaines choses. Alors déjà, le fait que les nationaux, notamment dans un pays comme l'Arabie Saoudite, qui est un pays quand même peuplé, ne sont pas une seule classe bourgeoise. Hein. Il y a en Arabie Saoudite, il y a une grande diversité de la population. Il y a aussi bien effectivement la famille royale, les milieux d'affaires qui sont très riches, mais il y a aussi par exemple les descendants d'esclaves, puisque l'esclavage a été aboli en 1961. Donc il y a des classes beaucoup plus pauvres aussi parmi même les nationaux saoudiens. Et d'un autre côté, parmi les non-nationaux, il n'y a pas seulement des personnes qui occupent des emplois non qualifiés, il y a des personnes qui occupent des emplois qualifiés. Et il y a aussi un petit milieu d'occidentaux qui ont des positions assez influentes, notamment dans le secteur privé, dans les entreprises multinationales, et où du coup, ils vont notamment avoir un rôle important dans la nationalisation des emplois. C'est-à-dire qu'en ce moment, en Arabie Saoudite, comme aussi dans les pays voisins, mais c'est une politique qui fait sens en Arabie Saoudite parce qu'il y a beaucoup de nationaux, il y a des politiques de nationalisation des emplois qui visent à remplacer les travailleurs étrangers, enfin de nationalité étrangère, par des travailleurs nationaux. Et donc ça, ça concerne notamment le secteur public, mais aussi certains domaines d'activité du secteur privé. Par exemple, la banque, la finance, ce genre de secteur. Et dans ce contexte-là, par exemple, dans les multinationales, les managers occidentaux jouent un rôle important pour choisir, en fait, quels Saoudiens et quelles Saoudiennes ont les qualités, ont les compétences pour travailler dans le secteur privé, pour faire carrière, etc. Donc là aussi, ils ont une influence assez importante en fait sur certaines dynamiques internes à l'Arabie Saoudite.
Ce sont eux qui choisissent, ce sont eux qui influent sur la politique future de l'État.
Alors, je dirais pas les choses aussi largement, c'est plutôt des petites poches d'influence à plusieurs niveaux. Par exemple, le gouvernement saoudien est très friand de l'expertise. Et donc, il y a de nombreux cabinets d'expertise, souvent basés dans des pays européens ou aux États-Unis, qui influencent les décisions que prend ce gouvernement. Par ailleurs, dans le secteur privé, alors moi, j'ai travaillé sur une banque multinationale, j'ai pu constater des choses, comme par exemple le fait que dans cette banque qui était située à Riyad, dans le siège en fait, il y avait beaucoup de managers occidentaux, mais aussi de managers saoudiens dans les niveaux les plus élevés de la hiérarchie, qui refusaient catégoriquement de travailler avec des Saoudiennes portant le niqab. Sachant que en Arabie Saoudite, et à Riyad hein, spécifiquement, donc la capitale, il y a une écrasante majorité des femmes saoudiennes qui portent le niqab. Et donc, pour eux, c'était quelque chose d'impossible, c'était quelque chose qu'ils disaient aux ressources humaines. Quand ils devaient sélectionner une nouvelle employée, ils disaient ça. Donc déjà, rien que ça, ça va sélectionner des femmes d'une certaine catégorie sociale et qui viennent de familles dites libérales, en fait.
Donc, d'une certaine façon, on veut avoir une opinion plus laïque, entre guillemets, et ça se retourne contre sa propre volonté. C'est-à-dire qu'on sélectionne et on ne sélectionne que des femmes d'un certain niveau, par exemple, ou d'une certaine éducation.
Alors, j'emploierai peut-être pas le terme de laïcité qui me semble difficile à appliquer en Arabie Saoudite, même dans une entreprise multinationale, parce que...
Du point de vue de l'occidental, en tout cas.
Enfin, c'est-à-dire qu'en Arabie, quelles que soient les croyances religieuses, on parle pas de laïcité. C'est pas un mot qui fait sens, en fait. Chacun croit ce qu'il veut en son fort intérieur, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un principe d'organisation de la vie sociale, puisque les personnes doivent quand même obligatoirement se définir par une religion. Et même quand on demande un visa pour l'Arabie Saoudite, on nous demande d'indiquer la religion. Et voilà. Enfin, c'est quelque chose qui a, enfin, l'affirmation d'une appartenance religieuse a un rôle dans l'organisation de la vie sociale.
Merci Amélie Lerenard, sociologue chargée de recherche au CNRS, Centre Maurice Albatch.
Merci beaucoup.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
À la une de la presse israélienne, Michel, la libération d'un bédouin israélien condamné pour espionnage par l'Égypte.
15 ans dans une prison égyptienne pour espionnage pour Israël, Oudet Arabin a été libéré 15 jours seulement avant la fin de sa peine dans le cadre d'un échange. Alors la presse israélienne montre ses retrouvailles avec sa famille dans un village bédouin du désert du Negev et aussi sa rencontre avec le premier ministre Benjamin Netanyahou. Darabin ne parle pas du passé, il dit « vivre un rêve », c'est la citation qui est rapportée par l'ensemble des journaux israéliens. Mais dans l'entourage du prisonnier libéré, on critique le gouvernement israélien pour sa passivité pendant la période de sa détention. S'il s'agissait d'un prisonnier juif, il en aurait été autrement, affirme-t-on notamment.
Alexandre, l'Arabie Saoudite fait la une de la presse panarabe avec d'abord la réunion de l'opposition syrienne à Riyad.
Une réunion à laquelle participaient une centaine de représentants de l'opposition non djihadiste, selon les organisateurs saoudiens, farouchement opposés à Bachar el-Assad. Assad a le choix de partir ou d'être forcé à partir par la force, a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères. Mais pour Téhéran, qui soutient activement le régime d'Assad, la réunion de l'opposition à Riyad comprenait des représentants de factions djihadistes. Une réunion qui a provoqué des réactions mitigées chez les éditorialistes. Certains proches de Riyad y voient un tournant qui permettra de former une délégation cohérente de l'opposition lors de futures négociations. Et d'autres qui pensent qu'il s'agit de la énième réunion d'une opposition divisée plus que jamais. Il y a enfin des éditorialistes qui estiment que l'objectif de l'exercice était d'asseoir le rôle diplomatique prédominant de l'Arabie au moment où se multiplient les critiques médiatiques occidentales contre Riyad.
Arabie encore, Alexandre, et la fin du sommet des pays du Conseil de coopération du Golfe.
Là aussi, l'Arabie du roi Salman a cherché à souligner sa position de leader et à imposer ses vues. Le communiqué final comprend donc une mise en garde à l'Iran, considéré par l'Arabie saoudite, selon certains éditorialistes, comme l'ennemi numéro un, tant pour des raisons de compétition régionale que d'inimitié religieuse de la part d'une Arabie qui se veut la Mecque de l'islam sunnite contre l'Iran, chef de file de l'islam chiite. Le sommet du Golfe s'est aussi engagé à participer à la reconstruction du Yémen. Un vœu pieux, selon un analyste qui souligne que la guerre enclenchée par l'Arabie contre les rebelles houthis au Yémen est loin d'être terminée.
Michel Paul, les attentats se multiplient et aucune solution en vue.
En marge de la vague de violence en Israël et dans les territoires occupés, on peut relever une série de titres comme celui-ci dans le quotidien Haaretz. Le président Barack Obama déclare à son homologue israélien en visite à la Maison-Blanche que l'absence d'initiative diplomatique va rendre plus difficiles les efforts pour contrer les condamnations d'Israël, notamment au Conseil de sécurité. C'est ce qu'Obama affirme à Reuven Rivlin. Autre citation, le chef d'état-major israélien, le général Eisenkot, estime que les attaques aériennes ne sont pas suffisantes pour venir à bout de Daesh. Et puis Eric, la presse se félicite de l'annulation de la visite potentiellement explosive en Israël du candidat républicain Donald Trump. Il avait notamment l'intention de se rendre sur l'esplanade des mosquées.
Alexandre Bouchanti, le spectre du chômage menace l'Arabie saoudite selon le journal Al Ayat.
Le journal commence son article par le rappel de la décision de la société de BTP Ben Laden, une des plus grandes entreprises d'Arabie, de se débarrasser il y a 2 semaines de 15 000 employés. Le journal rappelle qu'en plus des 30 000 Saoudiens, l'Arabie accueille 10 millions d'étrangers qui mettent une pression supplémentaire sur le marché de l'emploi. Le journal estime qu'en cette période de recul de la croissance économique, le chômage risque d'exploser dans une Arabie qui souffre déjà d'explosion démographique. Le taux de 12% de chômeurs, surtout chez les jeunes, pourrait augmenter au point de représenter un risque social.
Et puis Alexandre, le journal Al-Arabi Al-Jadid consacre un reportage à la ville de Sirte en Libye.
Les habitants de Sirte, de la répression de Kadhafi à l'enfer de Daesh, l'acronyme arabe du groupe État islamique, titre le journal. Le reportage révèle qu'une bonne partie des miliciens des brigades de Kadhafi ont troqué leur drapeau vert contre le drapeau noir de Daesh. Citant de nombreux témoignages, le journal indique que Daesh contrôle tous les aspects de la vie quotidienne de la ville par la terreur institutionnelle. Il conclut que le groupe État islamique prépare ses troupes, qui accueillent de plus en plus de combattants étrangers, à partir à la conquête de la Libye et au-delà.
Michel Paul, la presse se penche sur le rapport sur la pauvreté publié cette semaine.
La presse israélienne donne les chiffres de ce rapport. Il y a 1 700 000 pauvres en Israël sur une population totale de 8 millions d'habitants. 770 000 sont des enfants et plus de 13% sont des salariés. La conclusion de plusieurs quotidiens qui barrent la une de leurs éditions cette semaine, la pauvreté en Israël ne diminue pas, bien au contraire, elle s'approfondit et les pauvres sont encore plus pauvres. Leur salaire diminue, en fait, souligne un journal dans les pays affiliés à l'OCDE, Israël arrive tout juste avant le Mexique. Et le gouvernement, de l'avis général, ne fait pas grand-chose pour y remédier. Haaretz, dans son éditorial, parle de ce fléau comme d'une véritable bombe à retardement.
Pour conclure, Michel, votre photo du jour?
Eh bien, c'est la photo de Yossi Cohen, le nouveau patron du Mossad, le service de renseignement israélien. Toujours tiré à 4 épingles, il est surnommé par son entourage le top modèle.
Merci Michel, merci Alexandre. Merci également à François Porcheron et Jérémy Besset qui ont réalisé cette émission. Vous pouvez retrouver Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain, tout de suite un nouveau journal sur RFI.